Voilà, donc ouvrez vos Bibles ce matin à Marc chapitre 9 et le verset 38. Alors la semaine dernière, juste pour vous expliquer comment je vais aborder ces versets ce matin, je vous donne déjà le titre, les attitudes du ministère numéro 2. Numéro 2 parce que la semaine dernière c'était numéro 1, d'accord ? Les attitudes du ministère. Alors j'explique pourquoi. La semaine dernière, donc, j'ai abordé Marc 9, 30 à 37, que j'avais intitulé « Les attitudes du ministère ». Et nous avons évoqué les deux premières attitudes du ministère. Mais en examinant ces versets aujourd'hui, cette semaine, j'ai réalisé que le même thème, quelque part, continuait jusqu'à la fin de ce chapitre. Donc ce matin, j'aimerais donner la suite et vous donner encore trois autres attitudes clés du ministère pour un total de 5. Donc c'est vraiment la deuxième partie. Alors, révisons très rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là, ce que nous avons vu la semaine dernière, les premières deux attitudes du ministère. Donc on est dans Marc chapitre 9, et au verset 30, ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait à ses disciples, et leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et trois jours après, il aura été mis à mort, il ressuscitera. Et donc là, on a vu que la première attitude, c'était le sérieux. Le sérieux. Christ, disons, l'évangile, le christianisme nous parle de Christ. Et lorsqu'on parle de Christ, on parle de sa mort et de sa résurrection. Donc c'est une tragédie. Une tragédie. C'est pour ça qu'on l'appelle la passion de Christ. Mais cette mort et sa résurrection est la bonne nouvelle qui nous donne le pardon des péchés et la vie éternelle. Donc c'est du sérieux. Deuxième attitude que nous avons vue, c'est le service. Le service. Et donc là, vous rappelez ce qui se passe, ils sont de nouveau à Capernaüm, verset 34, ils gardèrent leur silence, car Jésus leur dit, demande de quoi discutiez-vous en chemin, ils gardèrent leur silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Donc dans un moment charnel, les disciples se demandent qui est le plus grand parmi eux, et dans le passage parallèle, qui serait le plus grand une fois qu'ils sont au ciel. Alors Jésus, verset 35, appela ses douze et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il dit, tu veux être le premier, c'est pas nécessairement un mal, si l'attitude est juste. Tu veux être le premier, ok, humilie-toi et commence à servir les autres. L'opposé de ce que le monde te dira. Deuxième attitude du ministère, donc. Un, le sérieux de le service. Trois, maintenant on arrive au texte d'aujourd'hui. Troisième attitude du ministère, la sympathie. La sympathie. Alors je vais commencer au verset 37. En fait, au verset 36. Il prit un petit enfant, donc dans la lancée de ce qu'il vient de dire par rapport au service, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Maintenant le verset d'aujourd'hui. Jean lui dit, maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jésus répond ici, ne l'empêchez pas, répondit Jésus. Car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Donc la troisième attitude du ministère que cette histoire met en valeur, c'est la sympathie, vous allez comprendre. Au verset 37, il dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits, on l'a regardé la semaine dernière. Donc cette leçon sur comment recevoir les gens avec humilité suscite ces gens, l'apôtre Jean, un souvenir et une question. Au verset 38, il lui dit, mais maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jean explique que lui et les autres disciples avaient vu antérieurement à cet incident, enfin à ce qu'on voit maintenant, il y avait un homme qui chassait des démons de Jean au nom de Jésus et avec succès. Donc il explique que lui et les disciples avaient été mécontents de cette situation. Et qu'ils avaient demandé à cet homme d'arrêter ce qu'il faisait. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce qu'il ne faisait pas partie des 12. Il ne faisait pas partie de leur groupe. Il était indépendant. Et ça, c'était un mal. C'est dit au verset 38. Nous l'avons vu, un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Donc nous, avec le groupe, avec Jésus. Si vous avez chaud, vous avez chaud ? Moi, j'ai chaud aussi, d'accord ? Donc on en a tous chaud. Là, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Et j'ai l'impression que ça va chauffer de plus en plus, là, d'accord ? Donc, c'est pas grave, d'accord. Donc on a tous chaud. Donc il leur dit, ben voilà, on l'a demandé d'arrêter parce que il n'est pas avec nous, il ne nous suit pas. Et là, nous avons apparemment un exemple d'intolérance et de jalousie apostolique. Eh oui. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment cet homme était un authentique croyant en Jésus-Christ, donc un vrai disciple de Jésus-Christ, sans pour autant faire partie du groupe de 12. Nous savons au verset 38 qu'il chassait des démons au nom de Jésus. Et au verset 39, Jésus dit « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. » Donc au verset 39, Jésus semble affirmer qu'en plus de chasser des démons au nom de Jésus, qu'il prêchait ou qu'il parlait de Jésus en bien, donc d'une manière juste et correcte. Apparemment, il annonçait vraiment l'évangile. Alors bien, il ne fait pas partie du groupe de 12, ça c'est le problème. Alors puisqu'il ne suivait pas le groupe de 12, il était probablement moins informé sur Jésus que les 12 qui, eux, passaient 24 heures sur 24 avec Jésus. Mais il n'était pas pour autant un faux disciple. Et de plus, et ça c'est ce qui est dérangeant, apparemment, pour Jean et les autres, c'est que cet homme avait un franc succès. Il chassait des démons. Et ça c'est important parce qu'au verset 18 du même chapitre, il y a un homme qui vient avec un garçon possédé vers les disciples, et il dit en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, parlant de l'esprit muet qui le possédait, verset 17. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Alors ça, c'est un problème. Les disciples, qui eux sont les disciples de Jésus, à qui Jésus a donné le pouvoir de chasser les démons, sont incapables de chasser ce démon. Et là, il y a un gars qui chasse des démons avec succès, mais il ne fait pas partie des 12. Alors là, ils se disent, ah, là, il y a un problème. Ce gars, qu'on ne connaît pas, a plus de succès que nous. Alors, conclusion, il faut l'arrêter, quoi. Il y a un problème quelque part. Alors, que répond Jésus au verset 39 ? Ne l'empêchez pas. Jésus, apparemment, explique que cet homme n'est pas une fraude, car il réussissait à chasser des démons par le nom de Jésus, et apparemment pointait à Jésus comme étant la source de son pouvoir. Il parlait bien de Jésus. Il prêchait la vérité sur le Sauveur. Et c'est intéressant que Jésus apparemment ici est en train de dire que cela est l'authentification et la validité d'un ministère d'un homme. Il semble confirmer que cet homme appartenait bel et bien à Christ, parce que il prêchait au nom de Jésus et chassait au nom de Jésus ses démons. Mais alors, où est le problème? Où est le problème? Eh bien, le problème fondamental semble être un problème de l'acceptation de l'autre qui faisait le même travail, mais différemment. En fait, c'est exactement le même problème que nous pouvons avoir dans les églises ou dans les dénominations chrétiennes. Et ça, il y a un côté fondamentaliste, vous avez déjà peut-être entendu ce terme, très, très étroit, très carré, qui nous vient des États-Unis à l'époque, qui disait souvent, ah, si tu fais pas partie de notre groupe, si tu fais pas le ministère comme nous le faisons, alors t'es pas authentique. C'est une sorte d'exclusivité. Là, on peut dire que le problème semble avoir été un problème de jalousie ministérielle. Les disciples étaient jaloux de cet homme dont le ministère était un franc succès, mais qui faisait les choses différemment qu'eux et était dans un groupe différent que le leur. Alors, c'est pas la première fois que ce problème surgit dans la parole de Dieu. Par exemple, dans Nombre 11, dans Nombre chapitre 11, au verset 26, il est dit ceci. Il y a deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, Exode 11, 26, qui étaient restés dans le camp sur lequel l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. Donc, il y a deux personnes qui prophétisaient. Verset 27, un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, le successeur de Moïse, fils de Nun, verset 28, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les !» Et Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Ah, Josué, il était jaloux, il dit, bah, « Moïse, quelqu'un est en train de prendre ta place !» Moïse dit, « Mais arrête !» Arrête, il n'y a pas que moi dans le monde. Josué, que le Seigneur suscite d'autres prophètes pour qu'ils annoncent la vérité. Ne sois pas jaloux. Regardez encore Jean 3, Jean chapitre 3, assez étonnant, verset 26. Jean 3, 26. Verset 25 nous parle des disciples de Jean-Baptiste. Or, ils... s'éleva de la part des disciples de Jean-Baptiste une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, parlons de Jésus, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et regardez la prochaine phrase, et tous vont à lui. » Donc Jean-Baptiste, il a un ministère énorme, des gens viennent de Jérusalem pour être baptisés par lui, ils s'en repentent. Il a un monstre ministère et tout d'un coup, Jésus apparaît, Jean-Baptiste le baptise. Et là, tout d'un coup, il y a beaucoup de gens qui arrêtent d'aller voir Jean pour aller voir Jésus. Alors les disciples de Jean, ils voient que la foule diminue dans leur camp et la foule augmente dans le camp de Jésus. Jean répondit, verset 27, « Quelle humilité ! Un homme ne peut recevoir de ce que lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais les amis de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouvent une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. » Et regardez ce qu'il dit au verset 30, très célèbre ces paroles. « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Jean dit, mais attendez voir, c'est pas moi le Messie, c'est lui le Messie. Moi je dois décroître, lui, il faut qu'il croisse aux yeux du peuple. Un commentateur nommé Swindoll dit ceci, « La jalousie est une chose curieuse qui se trouve souvent parmi les gens professionnels, des gens qui sont très doués et très compétents. La jalousie se trouve parmi les docteurs, les chanteurs, les artistes, les avocats, les hommes et les femmes d'affaires, les auteurs, les acteurs, les prédicateurs et les pasteurs, les éducateurs, les politiciens et les figures politiques et publiques. N'est-il pas étrange, continue-t-il, que ces gens qui sont extrêmement capables et doués trouvent-ils quasiment impossible d'applaudir d'autres personnes dans leur domaine qui excellent une ombre ou deux de plus qu'eux ? Il est difficile d'applaudir quelqu'un qui fait ce que tu fais mieux que toi. Ça, c'est dur. Parce que ça, ça prend de l'humilité. Alors, comment répond Jésus ? De retour à Marc 9, 39. « Ne l'empêchez pas, répondit-il, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt, après, parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. » L'authenticité d'un ministère n'est pas jugée par le style, ni l'appartenance à tel ou tel groupe, ou à telle ou telle dénomination, mais le fait que Jésus est glorifié et que l'on parle de lui avec justesse, droiture et véracité. Nous nous réjouissons dans un message juste sur la personne et l'œuvre de Christ qui en découle, et nous applaudissons ceux qui proclament ce message juste. Quelqu'un a dit « La meilleure manière de vaincre la jalousie, c'est d'applaudir d'autres qui font un bon travail dans votre domaine. » Alors moi, il y a un exemple. Moi, je ne suis pas du tout branché tennis. Mais parfois, quand Roger Federer joue, je regarde. D'accord ? Lui, je l'aime bien. J'aime bien ce gars parce qu'il est super humble. Et je l'ai vu l'autre jour de manière particulièrement impressionnante. Il jouait quelqu'un, je ne sais même pas contre qui il jouait. Et chaque fois que l'adversaire, je ne sais même pas le vocabulaire, chaque fois qu'il tirait sa balle, d'accord ? Qu'il tirait sa balle, ça se dit tirer la balle ? Non, en tennis, non, c'est pas. On fait quoi ? On tape la balle, hein ? On frappe la balle, merci. Chaque fois que l'adversaire frappait la balle et que c'était un point pour l'adversaire contre Federer, il prenait sa raquette et il faisait comme ça. Il applaudissait son adversaire. Et je me suis dit, mais c'est chapeau, quoi, pour le meilleur joueur apparemment du monde, d'applaudir son adversaire quand l'adversaire gagne un point contre lui. Moi, ça m'a impressionné, ça. Et ça, c'est pareil dans le ministère. Ça nous force d'avoir une vision globale du ministère. Un autre commentateur a dit ceci, « Nous devrions considérer toutes les églises du monde qui annoncent de manière juste et droite le vrai évangile comme étant des succursales qui font partie de la même entreprise. Si une succursale prospère, alors toutes les succursales prospèrent. » Le français, c'est dur des fois, d'accord ? Même si sur certains points, il y a des différences, comme pour cet homme qui ne faisait pas partie de leur groupe officiel, nous pouvons applaudir son travail pour le Seigneur, son travail juste, droit et correct. Et au verset 40, qui n'est pas contre nous et pour nous, la question qu'il faut se poser par rapport à ceux qui font le travail du ministère différemment, c'est ceci. Cette personne est-elle pour Christ ou contre Christ ? C'est la question. Si une personne n'est pas ouvertement contre Christ, et que son message sur Christ est juste et biblique, alors elle est pour Christ, même si elle n'appartient pas à mon groupe, bien qu'il n'y ait pas de neutralité par rapport à la personne de Christ, le disciple doit être tolérant envers les disciples qui sont différents que lui. L'Église doit être non ambiguë sur sa proclamation de l'Évangile en Christ, mais indulgent vers les disciples qui peut-être font les choses un peu différemment. Alors ça, c'est très différent que dans Matthieu 7:21. Matthieu 7:21, vous connaissez ce texte, il a dit ceci. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Extérieurement, on avait l'impression que ces gens étaient des disciples. Et ils prophétisaient, ils faisaient des miracles. Mais nous savons qu'ils étaient des faux. Pourquoi ? Parce que Jésus dit qu'ils pratiquaient l'iniquité et, verset 23, il ne les a jamais connus. Il n'y avait pas de relation établie entre eux. Ils n'étaient pas convertis, ces gens-là. C'était des non-sauvés. Leur compréhension du message du salut était faux et erronée. Ils faisaient des soi-disant miracles, probablement des contrefaçons, exactement comme les magiciens de Pharaon faisaient dans Exode 7, 8 à 13, parce qu'il est dit qu'ils faisaient leurs miracles, entre guillemets, par des enchantements, apparemment diaboliques. Ceci, dans Matthieu 7, nous ne pouvons pas applaudir. Nous devons applaudir ceux qui proclament un message juste. Le problème, c'est que parfois c'est compliqué de savoir qui est vraiment juste et pas juste. Ça, je suis d'accord. Et juste avant, Matthieu 7, à partir du verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Leurs fruits, c'est ça la clé. Leurs fruits, le fruit moral, surtout, et leurs fruits doctrinal. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit, et un mauvais arbre ne peut porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bon fruit est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le fruit théologique et le fruit moral. Et là, on voit que de faire des miracles, il ne faut surtout pas se baser là-dessus, mes amis. Parce que là, on a des exemples de vrais miracles et de faux miracles. Mais à l'œil humain, des fois, on ne sait pas trop. On peut faire passer des faux miracles pour des vrais miracles. Donc les miracles n'est jamais un critère de justesse, jamais. C'est la théologie qui est le critère de justesse. Alors, retour à Marc 9. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ. C'est ça la clé. Est-ce qu'on appartient à Christ ou pas? C'est ça la clé. Alors je relis. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alors ici, Jésus élargit ses paroles pour inclure les activités autres que l'exorcisme. L'exemple, c'était l'homme, ici, qui chassait des démons. Maintenant, il parle à d'autres. Même quelqu'un qui pratique la plus petite forme d'hospitalité au nom de Jésus, même un verre d'eau offert, sera récompensé, ou comme il le dit, ne perdra pas sa récompense. Et ça, il le dit, je vous dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Alors attention, il est récompensé ici, pas parce qu'il a fait un acte de charité, mais parce qu'il appartient au royaume. Les actes de gentillesse faits par ou pour ceux qui appartiennent à Christ ne sont pas anodins. James Edwards dit ceci, « L'acte de gentillesse le plus humble, même juste l'acte de donner un verre d'eau à quelqu'un, ne restera pas sans récompense de la part de Dieu. » Et ce qui est donné à quelqu'un qui appartient à Christ est perçu comme ayant été fait à Christ lui-même. Donc, comment est-ce qu'on résume? Je crois que on résume comme ceci. Nous devons honorer ceux que Dieu honore. Comme l'homme du verset 38. Mais il chasse des démons, mais il ne fait pas partie d'autre groupe. C'est OK. Honorez-le. Je vous montrerai un autre exemple, c'est pas tout à fait le même, mais il est intéressant. Philippiens 1. Même Paul a dû lutter avec ce problème. C'est un peu différent, mais je vais quand même vous lire ces versets, d'accord? À partir du verset 12, Philippiens 1:12, Paul est en prison à Rome. Il écrit cette lettre aux Philippiens, il dit « Je veux que vous sachiez, frères, ce qui m'est arrivé plutôt contribue au progrès de l'Évangile, en effet. » Dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Donc il dit, voilà, je suis en prison, Paul était un évangéliste, et donc beaucoup de gens savaient pourquoi, même dans le prétoire, donc romain, pourquoi il était en prison, pour sa foi. Et la plupart des frères, donc des chrétiens dans le Seigneur à Rome, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Donc les autres chrétiens à Rome, ils sont contents. Ça, ils ne sont pas contents qu'il est en prison, mais ça les encourage de savoir que Paul souffre pour sa foi, donc ils ont plus de courage. Mais regardez ce qu'il dit, verset 15. « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. » Là, il est en train de dire, vous savez, il y a des gens, des chrétiens qui prêchent Christ, mais ils sont jaloux de Paul, donc ils voulaient quelque part presque lui faire du mal. Verset 16. « Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. » Donc certains m'honorent, certains me cassent, même s'ils sont des chrétiens. Ça peut arriver, malheureusement. Tandis que cela, verset 17, animé d'un esprit de dispute, annonce Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Ah, les gens qui sont tellement jaloux de Paul, ils aimeraient presque le voir être étouffé pour que eux puissent être ensuite honorés. C'est horrible, mais ça arrive. Ça arrive dans le ministère, comme ça peut arriver dans votre lieu de travail. Et regardez l'attitude de Paul au verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc, Paul y dit, si l'évangile qu'il prêche est vrai et juste, même si les mobiles sont mauvais, qu'il prêche. Parce que c'est mieux que l'évangile soit prêché qu'il ne soit pas prêché. Ah ! Là, je dis chapeau. Là, je dis chapeau. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'examiner le message de quelqu'un et se dire, si le message est juste sur Christ, appelons-lui son nom. Donc, ça, c'est la troisième attitude qu'il faut avoir dans le ministère. La sympathie ou l'indulgence envers d'autres qui œuvrent fidèlement pour Christ, même s'ils ne sont pas rattachés à notre groupe, et même s'ils font certaines choses différemment que nous. Sachons les applaudir au lieu de les critiquer, même s'ils ne sont pas 100% comme nous. J'ai toujours dit, et vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça, écoutez mes amis, ça peut nous arriver à nous aussi. C'est impossible qu'une église évangélique à Genève atteigne toute la ville de Genève avec l'évangile. Donc on doit s'habituer qu'il y en a d'autres à Genève qui font exactement le même travail que nous, même s'ils le font un peu différemment. Donc c'est cette sympathie autour de l'évangile juste, droit, prêché. Quatrième attitude. Alors là, attention, on a l'impression qu'on change complètement de sujet, mais c'est lié. La sévérité. La sévérité. Verset 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-la, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir deux pieds et d'être jeté dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gêne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Alors là, mes amis, c'est du radical. Là, c'est du radical. C'est vrai qu'on a l'impression, en lisant ces versets, qu'ils sont un petit peu décousus, peut-être dissociés des versets précédents. Comme quoi, il y a une sorte de nouvelle pensée complètement. Mais c'est faux, parce que regardez ce qu'il dit au verset 42. Mais si quelqu'un... Donc, il fait le lien directement avec ses conjonctions, avec les versets juste précédents. Alors, essayons de comprendre. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient... Donc, la phrase « un de ces petits qui croient » décrit ceux qui croient en lui, donc des disciples. Le contexte plus large nous montre que Jésus a en tête le disciple qui chassait des démons au verset 38 que les disciples voulaient taire. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, alors le mot scandale, si on scandalise un tel chrétien, c'est quoi ? Scandale décrit une chose qui provoque la chute de quelqu'un. Ceci est donc un avertissement dirigé vers ceux qui de manière délibérée scandalisent ou font chuter ou font trébucher ou détruisent la foi d'un croyant. Et là, la condamnation pour une telle offense est calamiteuse. Donc, si on fait chuter, enfin, si quelqu'un fait chuter de manière délibérée un chrétien dans sa foi, aïe, aïe, aïe. Verset 42. Il vaudrait mieux, dit Jésus, pour lui, qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Alors c'est quoi une meule de moulin ? C'est une immense pierre, un moulin, placée à l'horizontale avec un trou au milieu dans lequel on mettait du grain. Un âne, c'était lourd, était attaché à cette meule et tournait cette meule et le grain se plaçait entre la pierre du haut et la pierre du bas et était broyé. Le grain était concassé ou broyé. Alors cette pierre, elle est extrêmement lourde. Alors l'image, elle est forte. Imaginez qu'on vous mette cette meule autour du cou. Vous êtes dans un bateau et on jette la meule. Je vous garantis que vous suivez cette meule très rapidement jusqu'au fond de la mer. Alors dans Apocalypse 18-21, on lit ceci. Alors un ange puissant prit une grande pierre semblable à une grande meule et le jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. » L'image de cette meule montre l'irrévocabilité d'un tel acte. Une fois que cette meule rentre dans l'eau et que tu es attaché, c'est fini. C'est fini. Là, tu ne t'en sors pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit Jésus, ici? Il dit, il est mieux de mourir d'une mort atroce, comme celle d'avoir une lourde meule de moulin attachée à son cou, être jetée dans la mer et ainsi mourir noyée, que d'être responsable de faire chuter ou trébucher un chrétien dans sa foi. Et là, au verset 43 à 48, il change d'emphase et dirige la pensée vers nous-mêmes, vers le lecteur à qui il parle. Alors, juste avant de les parcourir, un petit problème textuel, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je n'avais jamais remarqué ça jusqu'à ce que j'étudie. Est-ce que dans vos Bibles, levez la main s'il vous manque les versets 44 et 46. Levez la main s'il vous manque ces versets dans votre Bible. Un, deux, plusieurs. Plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas ces versets. C'est marrant, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je vois encore des mains qui se lèvent. Merci. Ah, si, encore des mains. Non, encore des mains, d'accord. Alors, pourquoi pas? Bien, dans certains textes plus récents, un scribe aurait inséré le verset 48. Le verset 48, il est là, d'accord, où le ver ne meurt point, où le lieu, où le feu ne s'éteint point, qui est une citation d'Ésaïe 66:24, et un scribe, pour avoir un équilibre, aurait inséré ce même verset, exactement pareil, comme le verset 44 et 46, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de, comment dire, une sorte un parallélisme parfait. Alors, les manuscrits les plus anciens, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, eh bien l'archéologie nous fait découvrir des manuscrits de plus en plus anciens qui nous montrent quels étaient, comment étaient, ou le plus proche qu'étaient les manuscrits d'origine qu'on n'a pas aujourd'hui. Eh bien, les manuscrits les plus anciens et fiables maintiennent le verset 48, mais omettent les versets 44 et 46. Donc, les Bibles, je pense, qui les omettent, ces versets, le font à juste titre, c'est une bonne chose, car les meilleurs manuscrits montrent qu'ils ne devraient pas y être. Ça, c'est, je ferme la parenthèse, ça c'est ce qu'on appelle la critique textuelle, essayer de comprendre pourquoi les textes y sont comme ils sont. On revient au verset 43 et le contenu. Donc il change d'emphase, dirige la pensée vers nous-mêmes, et il dit, mais si je suis responsable de scandaliser de manière délibérée la foi d'un chrétien, alors quoi? En bref, Jésus dit qu'il faut mieux s'amputer un membre corporel que de provoquer la chute d'un autre chrétien par ce membre corporel. Écoutez, alors franchement, il dit, je prends le verset 43, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne, dans le feu qui s'éteint point. » Alors la question, elle est celle-ci. On lit ça, on a quand même l'impression que Jésus parle de manière littérale. Est-ce qu'il est en train de dire, waouh, si mon œil ou ma main ou mon pied est un problème, je devrais prendre une hache et schlac, couper main? On a l'impression qu'il dit ça. Et si c'est vrai, je me demande pourquoi il y a tellement de gens qui ont les deux yeux, les deux mains et les deux pieds dans cette église. On obéit mal la parole de Dieu, mes amis. Ah non, peut-être que le cas, c'est qu'on est tous des chrétiens vraiment top niveau et qu'on n'a jamais fait chuter quelqu'un. Alors que penser? Comment interpréter cela? Bien, dans Matthieu 5, Jésus utilise la même image pour un autre sujet. Matthieu 5, 25, c'est dans le contexte du péché sexuel. Dans le contexte de l'adultère, hein, dans Matthieu 5, 27, vous avez appris qu'il est dit « Tu ne commettras point l'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Donc, il a utilisé cette même illustration pour des sujets différents. Là, c'était pour le péché sexuel personnel. Ici, c'est par rapport à faire chuter quelqu'un d'autre. Alors, de nouveau, est-ce qu'il parlait littéralement? Alors, c'est intéressant que quelques chrétiens dans l'histoire de l'Église, qui avaient un zèle qui excédait leur sagesse, ont pris Jésus au pied de la lettre et se sont mutilés afin, pensait-il, de résoudre le problème de la convoitise sexuelle, par rapport surtout à la convoitise sexuelle. Le plus célèbre était un homme du 3e siècle qui s'appelait Origène d'Alexandrie. Peut-être avez-vous entendu parler de lui, un père de l'Église. Lui est allé à l'extrémité de l'ascétisme, il a renoncé à tous ses biens. Ensuite, il a renoncé tant qu'il pouvait à la nourriture et même au sommeil. Et finalement, tenez-vous bien, il s'est fait castrer. Ainsi, pensait-il, le problème de la convoitise serait-il une fois pour toutes résolu dans sa vie? Eh bien, il avait tort. Alors, quelle réponse donner? Alors, c'est pas littéral. Je vais vous dire pourquoi, d'accord? Dans Matthieu 5, Jésus nous dit que le vrai problème, au verset 28, il dit excusez, 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle où? Dans son cœur. C'est quoi le problème vrai? C'est le cœur. Pas la main, c'est pas l'œil, c'est le cœur. Le cœur. C'est la première chose. Il faudrait en fait arracher ton cœur. Mourir. Si tu arraches ton œil, ou si tu te coupes une main ou un pied, le problème, c'est qu'il te reste quand même encore un œil, une main ou un pied. Ton problème n'est toujours pas résolu. Est-ce qu'on ne peut pas pécher avec un œil ou faut-il deux yeux? Vous connaissez la réponse, je pense. Faites comme ça. Vous avez tout vu. Est-ce qu'un homme totalement aveugle est épargné le péché de la convoitise sexuelle? Non. Non, parce que la convoitise est un problème de cœur. C'est intéressant qu'après qu'Origène se fasse castrer, il devienne eunuque, le concile de Nicée en 325 a formellement condamné l'acte barbare de cette pratique. Intéressant de penser qu'aucun des disciples de Jésus n'a appliqué ses paroles à la lettre, ni même Paul, qui dans Romains 7 décrit en détail sa lutte féroce avec le péché. Aucun d'eux ne se sont mutilés corporellement comme solution à ce problème. Et en plus, dans Deutéronome 14, 1a, le judaïsme interdisait la mutilation corporelle, hormis la circoncision. Donc on conclut que ce que Jésus dit ne doit pas être pris à la lettre, au sens littéral. Mais alors comment comprendre ces versets? Eh bien, Jésus est en train d'utiliser ce qu'on appelle, c'est une manière de parler, l'hyperbole, vous connaissez peut-être ce terme, c'est le procédé rhétorique qui consiste à exagérer pour mieux frapper l'esprit. Donc là, il dit que c'est tellement important, j'aimerais vraiment que vous captiez ce que je vais dire. Dans la société juive, l'œil, la main et le pied représentaient les meilleures facultés de l'homme. L'œil symbolisait ce que nous regardons, la main ce que nous faisons et le pied là où nous allons. Le point capital à souligner, c'est ceci. La vie éternelle est tellement suprême, au-delà du corps, que le corps passe en second plan. Je répète, la vie éternelle passe au premier plan et le corps passe au deuxième plan. Le royaume de Dieu est d'un prix incalculable, plus cher même que la valeur d'un œil ou d'une main ou d'un pied. Les choses qui sont pour nous suprêmes, les yeux, les mains, les pieds, c'est suprême, c'est important. En fait, sont secondaires par rapport au royaume de Dieu. Ça, j'ai envie de méditer ça, quoi. John, est-ce que tu crois vraiment ça? Est-ce que ma vie physique, terrestre, est vraiment secondaire dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, dans ce que je regarde, dans ce que je fais, là où je vais, tout ce que je fais, est-ce que tout ça est secondaire? Mais mon mariage, mes enfants, mon travail, toutes mes vacances, tout, est-ce que tout est secondaire au royaume de Dieu dans ma vie? Là, c'est une question vraiment intéressante, je trouve. Là, ça demande une analyse personnelle. Le retour à Marc 9. Il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne, dans le feu, qui ne s'éteint point. Il dit pareil pour le pied, pour l'œil, verset 47, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gêne. Et donc ici, le contexte est très important, c'est par rapport à faire chuter quelqu'un d'autre dans sa foi. C'est le contexte. Alors, je voulais être super pratique, me dire, mais attends, ok, qu'est-ce que ça veut dire dans le monde réel d'aujourd'hui? Comment est-ce que je peux, moi, par mon corps, faire chuter un chrétien dans sa foi? Ça, c'est intéressant comme question. Alors, j'ai eu un exemple. Je crois qu'il est bon. Par rapport à l'œil. Et je pense que nous sommes tous confrontés à cet exemple d'aujourd'hui. La télévision. Prenons cet exemple. Alors, les chrétiens, je pense, les chrétiens authentiques, nés de nouveau, qui aiment Christ, qui sont rachetés par Christ, certainement ont des libertés, des sens de liberté différents par rapport à ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas regarder à la télévision ou même un film, disons. Voilà, où est-ce qu'on place la barre de ce qui est permissible ou pas permissible? Chacun peut être à la barre un petit peu différemment. Alors peut-être qu'un jour vous êtes avec plusieurs chrétiens et vous regardez un film ensemble. Une scène questionnable apparaît dans le film. Qu'est-ce qu'on fait? L'un réagirait peut-être et dirait « Ah, cette scène, elle est inconfortable pour moi, moi je crois qu'on ne devrait pas regarder. » L'autre peut-être se moque, se dit « Mais quoi, c'est pas un problème cette scène, elle est parfaitement ok. » Et il continue la scène. Est-ce possible que d'avoir forcé ce laxisme sur l'autre chrétien devient pour cet autre chrétien une occasion de chute? C'est un exemple. Alors, je ne veux pas être légaliste, je ne suis pas en train de dire ce qu'il faut ou ne faut pas faire. C'est une question que je pose. Et je me la pose à moi-même. Romains 14, 13, dit ceci, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. On devrait vouloir faire tout dans notre possibilité pour honorer l'autre et pour, comment dire, hausser sa foi. Et ne pas lui faire du mal. Alors c'est vrai que l'illustration de Jésus, il ne peut pas être plus radical ici. Il est possible que notre comportement soit pour un autre chrétien une occasion de chute, un scandale. Les conséquences décrites révèlent que si un soi-disant, alors là je choisis bien mes mots, si un soi-disant chrétien continue dans cette voie de scandaliser les autres chrétiens par son comportement, qu'il n'est probablement pas un vrai chrétien jugeant de ce qui lui attend. Il parle de la gêne. Alors, allez voir. Moi, j'ai mis en jaune tout ce qu'il dit sur la gêne. Verset 43. Mieux vaut ne pas aller dans la gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Verset 45 à la fin. La gêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Verset 47. Dans la gêne, verset 48, où leur ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. La gêne, c'est un nom dérivé de la vallée de Hinnom, un ravin très raide sur le flanc ouest de Jérusalem, où les sacrifices humains étaient pratiqués sous le roi Akaz et Manassé. Alors, les sacrifices d'enfants ont été abolis sous le roi Josias, dans 2 rois 23-10. Mais cette vallée était devenue aussi la décharge de Jérusalem. Donc les gens amenaient toutes leurs poubelles et tout ça. Et donc il y avait une sorte de feu qui ne s'éteignait jamais. Il pleut pas beaucoup là-bas, alors on rajoutait des déchets, ça brûlait, puis ça brûlait continuellement, avec une grosse odeur horrible. Et donc cette vallée est devenue une description très vive de l'enfer, des peines éternelles et des tourments les plus atroces. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont répugnés par l'idée que les peines éternelles sont vraiment vraies. Ils lisent ces versets, ils disent « bon, ça ne peut pas être vrai, ça. Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Écoutez, je vais vous lire des versets et vous de me dire si vous pensez que c'est vrai ou pas. D'accord ? Allez, on commence. Daniel 12, 2. Je lis sans beaucoup de commentaires, d'accord ? 12, 2. Plusieurs. Daniel, hein, attention, Ancien Testament. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternel. » Je ne sais pas si vous connaissez le dernier verset dans Ésaïe, le dernier verset du livre, 66, 24, je lis. « Tout chair viendra m'adorer, dit l'Éternel, et quand on sortira, Ésaïe 66, 24, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Matthieu 5, 22, Jésus parle et dit ceci. « Mais moi, je vous le dis, que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la gêne. » Matthieu 13, 49 dit ceci. « Et il sera même à la fin du monde. » Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Apocalypse 14, verset 9. Et un autre, un troisième ange, le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur le front et sur ses mains, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Et Apocalypse 20, et le verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie, fut jeté dans l'étang de feu. Alors, retour à Marc 9. Que dit Jésus ? Scandaliser de manière délibérée la foi d'un croyant a des conséquences terrifiantes. L'authentique disciple de Christ est appelé à encourager d'autres disciples de Christ, même s'ils ne sont pas dans leur groupe. Cette attitude prouve qu'ils sont en fait d'authentiques croyants et disciples de Christ et que leur destin éternel de félicité est scellé. Mais le contraire est vrai aussi. Si ces chrétiens, je mets entre guillemets chrétiens, sont des occasions de chute de manière répétée et délibérée pour de vrais disciples qui ont une appartenance différente que la leur, alors cela révèle peut-être qu'ils ne sont pas vraiment de vrais disciples, comme dans Matthieu 7, et qu'ils subiront les peines éternelles décrites si clairement dans ce texte. Et tout cela fait bien réfléchir. Et je termine. Et vous allez comprendre pourquoi ça va aller très vite, là, à la fin. Verset 49, « Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Alors ces versets, mes amis, sont très compliqués, au point où il y a 15 interprétations différentes proposées. Alors je ne vais pas prétendre connaître la bonne, d'accord ? Je vous donne mon opinion. Ils sont liés au verset qu'on vient de voir. Car il dit au verset 49, « Car tout homme sera salé de feu. » Tout homme, apparemment, qui scandalise la foi d'un croyant, révèle qu'il n'est pas authentiquement croyant et que la gêne lui est réservée. Et le sel est un agent de préservation. Donc cet homme-là, ce non-croyant, sera préservé pour le feu de la gêne. Mais ensuite, il change de ton, verset 50, et il dit « Mais le sel est une bonne chose. C'est un agent de préservation, le sel. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? » Oui, le sel peut parfois se mélanger avec des agents nocifs, ne plus servir à rien, il perd sa salinité. Donc, verset 51, « Ayez du sel en vous-même. » Le disciple ont besoin d'avoir un bon sel en eux. Ils doivent maintenir leur relation de disciple avec Jésus et purger ce qui pourrait corrompre ce sel en eux. Le sel doit être un agent de préservation dans la relation de disciple de Jésus et ne pas scandaliser d'autres. Ils doivent couper ce qui pourrait nuire à cela, être radical. Et le résultat, verset 51, « Soyons en paix les uns avec les autres. » Par rapport à ces versets, on pourra avoir une paix entre nous. Même avec ceux qui ne sont pas dans votre groupe précis. Ça, mes amis, c'est du béton armé. Ça, c'est vraiment du béton armé. Je ne sais même pas si j'ai vraiment donné crédit à ce texte aujourd'hui. J'espère. Alors, voici 5 attitudes clés du ministère. Numéro 1, le sérieux. Numéro 2, le service. Numéro 3, la sympathie. Numéro 4, la sévérité. Et numéro 5, la salinité. Alors maintenant qu'on est tous déprimés... Non, je blague. Peut-être on va juste... Mais tu peux jouer juste un petit peu, Flavius. On va peut-être juste prendre quelques instants de réflexion personnelle et ensuite on va... clore le culte, mais voilà, moi je ne sais pas ce qui vous a touché ce matin, là où vous en êtes. On a beaucoup vu, 3 domaines un peu différents. Moi j'ai été touché, profondément touché par ce texte et je demande à Dieu de vraiment m'aider, quoi. M'aider à progresser dans ma foi. Et que ma vie reflète de plus en plus Christ. Et que j'aie le réflexe d'honorer d'autres qui aiment Christ et qui avancent bien avec Christ. Et d'être radical, d'encourager la foi des autres, pas de l'abîmer. Et je me pose la question, John, est-ce que tu fais des trucs dans ta vie qui pourraient abîmer la foi de quelqu'un ? Ça, ce serait horrible. Mais ça peut arriver. Et toi ? Est-ce que ta vie est un reflet ? Si les chrétiens venaient te demander, regardez à ta vie aujourd'hui, est-ce que ta vie donne envie ? Est-ce que ta vie, elle serait un sujet d'encouragement ou de chute pour un chrétien qui te regarde et dit « Quoi, toi t'es chrétien et tu te permets ça ?» Ça, c'est des questions à se poser. Et le monde nous regarde, mes amis. Les chrétiens nous regardent, le monde nous regarde. On ne veut pas être légaliste ici. Ce n'est pas du légalisme, c'est simplement est-ce que ma vie qui a été touchée par la grâce de Dieu est un reflet de cette grâce ? Seigneur, merci pour... ce texte ce matin est... Seigneur, peut-être quelqu'un ici même ne connaît pas Christ personnellement. Moi, je te demande que maintenant ils disent « Jésus, je veux être chrétien. Moi, je veux être comme ça. » Peut-être vous n'êtes pas exactement sûr sur l'enfer, ce que c'est. Mais Jésus était clair. Moi, je te pose la question, est-ce que tu es chrétien ? Est-ce que tu sais que tu es sauvé ? Sinon, tu as entendu ce qui t'attend. Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Merci, merci et merci encore. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Aide-nous demain matin à refléter Christ. Demain au travail. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.